Aujourd'hui, on a évacué la beauté de la vie. On a évacué l'esprit. On est dans un système pratico-pratique où les gens sont éreintés.
CO2, mon amour.
On est éreintés par le temps qui passe, alors que c'est nous qui passons en fait. Et on est complètement pris dans un piège temporel qui est un piège évidemment qui fait que nos existences,
Denis Chessou,
ont l'air un peu de brûler comme une bougie en plein jour.
Voilà donc une voix qui devrait faire plaisir à Émilie Loiseau. Elle est presque voisine de cet homme-là, donc Pierre Rabhi, que l'on retrouvera. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 de mon amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, en tout cas qui essaie, avec Vincent Godard et Julien Michel aujourd'hui à la technique, et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Oh, bien évidemment que je veux changer d'atmosphère. Vous avez vu ma gueule? On dit que je suis une perle bleue au milieu de la Voie lactée. Oh, je suis plutôt palote. Je suis pas très folichonne, moi, la Terre, en ce moment. Changer d'atmosphère, bah évidemment. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que les femmes qui sont voilées. Et non, je le suis aussi. Vous m'avez collé un voile de CO2. Vous entendez? Je m'asphyxie. Ah oui, mais pourtant, il y a quand même eu la COP 21, premier accord internationalement signé. Oh, ça, c'est un vrai succès. C'est vrai, c'est du bon. Car tout le monde commence à tousser et certaines villes à cracher leurs poumons. Il n'y a qu'un seul léger souci, il n'y a rien de contraignant là-dedans. Et la température continue de grimper aussi sûrement qu'un singe sur un cocotier. Alors secouez-vous pour la COP22 si le futur vous intéresse, bande de gaspilleurs inconscients. Il y a quand même des gens qui sont fascinés, vous savez, par Mars, qui veulent y aller. Eh ben allez-y, si vous aimez la vie en rouge, hein. Cela dit, c'est pas la peine d'aller si loin, car vous aussi, vous avez des bouts rouges. Eh oui, que vous avez autorisé à polluer vos sols et vos océans. Vous aurez presque le même décor, ça vous fera pareil. Alors là, quand même, on a vu une chose assez intéressante, c'est que 58% des vertébrés ont disparu en 40 ans, et ce déclin va se poursuivre si nous ne faisons rien. C'est donc une alerte du WWF dans son rapport Planète Vivante 2016. Eh ben, félicitations, ça c'est un très très joli score qui confirme ce que l'on sait déjà. Je ne suis plus la Terre, je suis un paillasson. Et vous, des invertébrés du cerveau qui n'ont toujours pas compris que la nature n'était pas un stock sans fin, qu'en trois clics on peut piller. Alors amusez-vous encore et encore, faites du fric. C'est la religion principale de 20% de l'humanité. Mais vous vous sentez vraiment malade? Ne vous en faites pas, je suis bien plus résistante que vous. Mais quand même, PIB, OMC, CETA, TAFTA, hein, bah ce sont des noms de maladies, hein, tout ça. J'ai beau me gratouiller, me chatouiller, j'ai attrapé des humains, je ne m'en débarrasse pas. Au début, j'étais, remarquez bien, tout à fait gentil, hein. Aujourd'hui, ils décident de tout, sans connaître mes fonctionnements. Et pour s'en débarrasser, c'est quand même compliqué. Tiens, tenez, regardez à quel point vous êtes cohérent. Écoutez la voix de la moustache verte.
Si on parle de l'agriculture, on est un peu cinglé. On se rend compte qu'aujourd'hui, on veut permettre à des grands groupes comme Lactalis d'exporter 19 000 tonnes de produits laitiers vers le Canada de fromage industriel. Et de l'autre côté, nous, on va importer 50 000 tonnes de viande bovine et 65 000 tonnes de viande porcine, alors qu'on est en excédent en Europe. Pourquoi aujourd'hui imposer des marchés avec des quotas d'importation alors qu'on n'en a pas besoin? Et donc le commerce, c'est pas de faire la guerre entre eux. Faire du commerce pour que les paysans se battent entre eux et qu'il y en a qui perdent d'un côté et qui perdent de l'autre, je vois pas l'intérêt. Donc c'est pas comme ça qu'on construit de la solidarité. Et plutôt que de faire des traités de libre-échange, faisons des traités de coopération qui permettent aux gens de vivre mieux.
Alors d'accord, on sanctuarise des bouts de mer froide par-ci, des bouts de mer chaude et des arpents de forêt par-là, mais le compte n'y est pas. Et en plus, vous aimez vous shooter à la chimie, comme si vous étiez seul. À vous parfumer aux pesticides, si plus l'agriculture, c'est un linceul. La chimie, sauf quand elle soigne, bien sûr, c'est pas bon pour le cerveau, ça aide pas à réfléchir. Mais est-ce qu'on veut vraiment nous faire réfléchir? Bon allez, moi j'ai du boulot, hein. Je tourne sur moi-même en 24 heures, et on a un an pour faire le tour du soleil. Non mais quand même la Terre, là, soyez quand même gentil, est-ce que vous pouvez nous donner un seul, mais vraiment un seul conseil pour terminer. Écoutez, soyez gentils, vous laissez le charbon, le pétrole, ce qui reste sous ma peau, sinon vous serez tous transformés en poisson pané et en tartine grillée, c'est comme ça. Alors soyez intelligents, car vous l'êtes. Moi je vous ai tout donné, hein, faites avec moi et pas contre moi, contre ma nature. C'est la vôtre de prédateur que vous devez changer. Moi je serai la plus forte, de toute façon la Terre. Je suis à consommer, je vous l'ai dit, avec modération, et à renouveler autant qu'il vous plaira. Sinon c'est très simple, hein, ce sera du balai, allez-y, tout le monde, dehors, à de patresse, et je continuerai ma ronde sans vous qui aurez très chaud aux fesses, mais sans m'asphyxier et en changeant d'atmosphère. on fait ce qu'on peut. Bonjour Émilie Loiseau.
Bonjour. Je suis très 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 admirative, très étonnée par ce talent de cette voix incroyable, ce talent de comédien. Ouais,
j'aime bien cette somme-là, j'aime beaucoup. Mais vous êtes d'ailleurs vous-même aussi. Non, je vais pas faire toute l'émission comme ça, parce que sinon ça va être un petit peu lassant pour les uns et pour les autres. Ça va être absolument terrible. Vous allez fuir en courant et vous aurez bien raison. Grand merci, chère Émilie Loiseau, donc, d'être avec vous, qui est à la fois, alors, vous aussi, comédienne, qui est une pianiste, qui est une chanteuse. On vous aime vraiment beaucoup sur Radio France et aussi sur France Inter. Et puis, vous revenez avec cet album Mona. On pourra, bien sûr, en parler. Et si vous êtes là aussi, bien, c'est parce que vous avez une véritable sensibilité à l'environnement. Alors, la jeune franco-britannique que vous êtes, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu comme point de départ, on va dire, pour vous intéresser à cela ou ressentir?
Je pense que d'abord, il y a eu une éducation qui était tournée vers la nature et vers... J'ai été élevée dans un petit village et également en partie au bord de la mer en Vendée. Donc, ouais. C'est des choses où mes parents n'avaient pas une véritable conscience écologique. Je pourrais pas dire ça. Je pense que maintenant, je me rends compte de plein d'incohérences et du fait qu'ils n'étaient pas éveillés là-dessus. Mais par contre, ils avaient un amour profond.
L'époque était différente. Hein,
oui, complètement. Ouais. Il y avait quand même des gens qui étaient très en avance là-dessus.
Bien sûr,
eux n'étaient pas 60, ouais. Là-dedans. Donc ça, c'est venu après. Mais par contre, cet amour de la nature, des choses qu'il faut préserver, une sorte de, sans que ce soit vraiment formulé, de respect de sa fragilité, de voilà, ces choses-là, cet amour-là, ils me l'ont transmis. Et de ce fait, j'ai toujours eu besoin d'avoir une échappée dans mon travail au fur et à mesure qu'il évoluait, de pouvoir aller j'ai toujours un côté ours, quoi, d'avoir besoin d'aller un peu au loin et au silence.
Faites attention, il y en a de moins en moins en France des ours, hein, donc planquez-vous parce que cela dit sur votre coin d'Ardèche.
C'est ça. Et voilà, et ensuite je suis allée, effectivement, je suis tombée en amour pour l'Ardèche. J'ai posé mes valises là-bas pendant une bonne petite dizaine d'années. Mmh. Et j'y ai vécu, là j'y vis moins, mais j'y ai vraiment vécu. Et je crois que c'est la rencontre avec cette région, avec ses habitants, avec plusieurs personnes qui travaillent là-bas, qui travaillent la terre, qui travaillent les forêts, qui sont agriculteurs ou autres, et qui m'ont transmis... une forme de conscience plus aiguisée.
Il y a du rebelle là-bas aussi, hein, c'est important. Oui. Il y a des idées qui sont nées aussi sur l'environnement en Ardèche. Alors, je ne sais pas si la vôtre, comme on dit, si c'est l'Ardèche à l'huile, la selle au beurre. Enfin bon, je ne vais pas rentrer exactement dans le lieu, mais on est plus proche des Cévennes.
Je suis tout
Cévennes.
Au sud. Je suis vraiment tout au sud, à la frontière de la Lozère et du Gard.
Oui.
Et puis aussi, j'étais au milieu de c'est une maison au milieu des bois, au milieu de la forêt, à flanc de falaises. Donc c'est On prend conscience aussi beaucoup plus. On est comme le dit Rabbi, on est hors sol en fait dans les villes. Et quand d'un seul coup on remet ses pieds sur la terre, on a beaucoup plus conscience de la fragilité des choses, et des choses qui changent et des mutations.
On aura le temps donc d'écouter Pierre Rabhi tout à l'heure. Mona, qui est cette Mona? Dites-nous.
Mona, c'est l'histoire c'est le journal de bord d'une jeune femme qui accouche d'un enfant.
Qui est vieux.
D'un enfant qu'on lui annonce que cet enfant est vieux à la naissance. Et tout le monde allait retrouver ça normal. Et tout ça se passe dans un univers assez réaliste et cru. Donc, et en même temps, tout forcément devient complètement absurde puisque c'est une maternité dans le prisme de la vieillesse.
Il y a des choses étranges ici. Mona, Mona, see the world upside down. il des solutions chimiques, une formule algébrique, une équation pour le bonheur.
Mona, donc Émilie Loiseau, notre invitée aujourd'hui tout au long de ce CO2 Mon Amour.
Pour fêter votre arrivée, Papa Buc vous a concocté un menu typique de la région.
CO2 Mon Amour.
Avec en entrée, sa fameuse soupe aux cailloux.
Et peut-on savoir, Monsieur Buc, à quoi sert ce caillou minéral?
À brasser, à mixer pendant la cuisson cette merveilleuse soupe.
Voilà. Voyez les enfants, c'est passionnant de s'intéresser à d'autres cultures.
Oh. N'y goûtez pas, c'est un fait.
Oh, trop tard. Ah, effectivement, je sens un arrière-goût assez prononcé. Un peu comme de la terre.
Écoutez, c'est normal, de toute façon, on peut pas tout enlever. Il y a toujours des petites caillasses qui traînent.
Avec Denis Chessou.
Un des sujets choisis par Émilie Loiseau concerne donc les cantines. On va pouvoir en parler avec vous ainsi qu'avec Isabelle Saportet. On va faire un petit tour aussi du côté de Montsartou. Dites donc, si vous étiez un sandwich, Émilie Loiseau, qu'est-ce que ce serait?
Si j'étais un sandwich, je serais déjà alors du pain. Qui soit fabriqué avec des farines pas complètement industrielles, mais voilà, qui soit bonne pour la santé, qui soit pas en surcharge de gluten, qui voilà du pain, du bon pain, du vrai pain. Ensuite, je pourrais changer en fonction du désir de l'autre, de chacun. C'est-à-dire que je serais un sandwich qui pourrait avoir au choix, parce qu'il y aurait plein de différents légumes, etc. qui seraient derrière moi, qui viendraient pas loin, en fait. Donc que des trucs en circuit court, des tomates, des choses de saison, voilà. Et puis on mettrait tout ça en moi et puis ce serait parfait.
Alors vos interrogations donc aujourd'hui par rapport à ce thème. Donc est-ce que c'est extrêmement important? On va rappeler aussi alors dans notre grande série, on va pas se planquer que toujours derrière les gaz à effet de serre parce que ça commence à être parfois un peu anxiogène pour les gens, mais l'assiette c'est quand même 30% de cette affaire-là lorsque alors, si on met tout compris les transports etc. Mais c'est quand même 30% de nos choix. Donc qu'est-ce qui vous intéressait dans ce thème sur les cantines? Alors dire peut-être en général, cantine bio, pas bio.
Moi, je pense que déjà, enfin moi personnellement, le label bio, je m'en fiche un peu moi personnellement. En fait, je vends déjà ce que s'il y a quelque chose de d'écologiquement responsable.
Non, parce que vous en avez 200 000 qui font
évidemment, bien sûr, mais c'est-à-dire qu'on peut manger bio et aller au Monoprix acheter des trucs sous cellophane qui viennent de l'autre bout de la planète
et avoir
l'impression qu'on fait quelque chose pour l'avenir de cette planète. En tous les cas, on se protège soi-même, mais on se protège soi-même, mais on pense pas à l'éthique de tout ça. Voilà. Donc, moi, je pense que, par exemple, donner du travail, fondamentalement, évidemment, ça implique des réaménagements. Je suis pas complètement naïve d'espace, mais je pense que donner du travail à une cuisinière, ou à plusieurs personnes qui vont faire à manger dans une école, déjà, c'est d'une part, c'est quelques chômeurs en moins. Et en plus, il y a un rapport humain. Et puis, ça permet que ça vienne pas dans des plateaux sous vide, ou dans des cagettes comme ça sous vide. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, les trucs qu'on a lus, là, à réchauffer. Et puis voilà, je pense que c'est la nourriture. En fait, on donne ce genre de nourriture à soit aux gens qui sont malades, soit aux vieux, soit aux enfants. Et c'est exactement tous les gens qui ont besoin d'aller mieux. Ouais, c'est les gens qui ont besoin justement de tous les apports et les vitamines qu'il leur faut pour se porter mieux. Et c'est à eux qu'on donne de la bouffe de merde. Pardon, mais c'est vrai. Ouais, c'est illogique. Et les enfants, pour moi, bon, c'est pas seulement parce que j'en ai deux, c'est c'est là, c'est maintenant qu'ils se construisent, en fait. Mmh. Donc, il y a effectivement le fait du circuit court, parce que je pense qu'il faut qu'on soit tous responsables maintenant par rapport à ces choses-là. Mais il y a aussi de donner des choses saines à nos enfants, de pas leur donner de la viande tous les jours. À quoi ça sert? Mmh. De la viande tous les jours, quasiment. Quasiment. Le poisson, j'ose même pas imaginer ce que c'est. Quelque part, j'ai même pas envie d'y réfléchir. Voilà, c'est un souci de santé. Et puis, effectivement, de santé publique et d'écologie. Ouais.
Alors, une personne qui ne va pas du tout vous contredire, c'est Isabelle Saporta. Isabelle, donc, est journaliste. Vous étiez déjà venue, puis vous allez revenir dans cette émission avec un très bon bouquin qui s'appelait « Foutez-nous la paix ». Et ça, d'ailleurs, vous preniez véritablement la défense de tous les agriculteurs avec un paquet de normes qui étaient absolument invraisemblables pour les uns et pour les autres. Et vous nous aviez donc distillé aussi tout ça. Alors, un petit rappel. En France, on a 73 000 cantines, alors qu'elles soient aussi bien scolaires, les hôpitaux, les entreprises, les EHPAD, voilà, donc ça, donc on en a en gros 73 000. L'éducation nationale, ça représente quand même par an 1 milliard de repas. Vous avez 6 millions de gamins quand même qui mangent tous les jours, donc c'est pas rien. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui avant de faire un petit tour du côté de Montsartou?
Ben, on peut dire que, en fait, effectivement, ce que vous disiez très bien tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie que ça bouge, qui ont envie qu'on mange local et qu'on mange bio, et qui ont qui ont mis des bâtons dans les roues en permanence. Vous avez notamment Brigitte Allain, qui est la députée de Dordogne, Europe Écologie Les Verts, qui a dit, écoutez, voilà, j'ai fait un super rapport, elle le fait en juillet 2015, on voit qu'il faut faire des circuits courts à la cantine. Elle porte son rapport comme une guerrière, elle arrive à faire une proposition de loi en janvier 2016 qui est adoptée à l'unanimité, et bien sûr, elle a été coulée, torpillée au Sénat, comme toujours ou comme souvent, pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire que les grands lobbies de ces grandes cantines industrielles dont vous parliez très bien tout à l'heure sont montés au créneau en disant que non, 40% de local, mais on est fou, 20% de bio, encore plus.
Ah, c'était ça l'idée, donc c'était 40% de local.
C'était 40% de local.
Et dans ces 40%,
20% de bio. Et donc l'idée, c'est quand même pas mal, parce qu'aujourd'hui, on est en train de se poser de la question de comment faire vivre nos agriculteurs. C'était 7 milliards d'euros, finalement. Sur 7 milliards d'euros, on sanctuarisait quasiment 3 milliards pour nos agriculteurs.
C'est-à-dire que le chiffre d'affaires de toutes ces cantines, c'est 7 milliards.
C'est 7 milliards. Ça coûte de nourrir nos enfants, les EHPAD, tout ce que vous disiez tout à l'heure. Ça coûte à peu près 7 milliards d'euros chaque année. Si vous sanctuarisez 3 milliards à peu près pour nos agriculteurs, pour qu'ils produisent sainement, pour que ce soit en circuit court, c'est vraiment le cercle vertueux tel qu'on l'aime. C'est-à-dire que eux vivent bien. Nos enfants, nos seniors mangent bien, donc tout le monde est heureux. Mais non, mais bien sûr, effectivement, les lobbies sont montés au créneau, et là, c'est devenu une espèce de saga que je peux vous raconter, si vous voulez, mais qui est une espèce de saga législative, où, effectivement, vous avez deux guerriers, Brigitte Allain à l'Assemblée nationale, Joël Labbé au Sénat, qui essayent, vaille que vaille, de faire bouger les lignes, et qui ont un mal fou à les faire bouger.
C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on doit avoir 3 ou 4 groupes en France qui ont une délégation de services publics. Donc, on a Sodexo, on a Elior, on a Compass, peut-être qu'il m'en manque un, enfin, quelque part. Et qui vous disent quand même la main sur le cœur, mais on est bien sûr pour le bio.
Bien sûr.
En fait, on se rend compte qu'il y a un lobbying qui est quand même, qui est assez contraire.
Mais alors, mais écoutez, la main sur le cœur, ils vous disent qu'ils sont pour le bio. Mais comme vous le disiez aussi très justement tout à l'heure, moi, il y a des cantines que je suis allée visiter parce que je suis quand même pas mal sur le terrain. Par exemple, dans le Finistère Nord, où il y avait le maire qui me disait complètement désespéré devant un champ de carottes. Vous voyez, là, le champ de carottes est en face du lycée. Et pour autant, nous avons des carottes certes bio, mais qui viennent d'Italie. Donc c'est vraiment un truc absurde.
Ah oui.
C'est quand même vraiment, on est au bout du système qui n'a aucun sens.
Oui.
Donc voilà. Mais là, j'ai vu qu'il y avait une initiative aussi, juste avant de venir chez vous, des députés européens qui nous ont dit, voilà, non, mais c'est pas 20% de bio qu'il faudrait, c'est 30% de bio. Mmh. Très bien, super.
Allons-y, oui.
Alors donc, ils ont fait leur déclaration. Là, maintenant, ils ont 3 mois pour essayer de convaincre la majorité des députés parlementaires. Je leur souhaite bon courage.
Oui.
Et une fois qu'ils auront convaincu la majorité des députés parlementaires, à votre avis, Denis Chessou, qu'est-ce qui va se passer?
Je n'ose pas l'imaginer parce qu'on va de toute façon déjà ils ont absolument pas la tête à ça quoi qu'il arrive.
Non, c'est ça.
Premier point.
Voilà.
Et puis après on va dire tricoter l'affaire.
Ben exactement. C'est-à-dire que au mieux, s'ils arrivent à convaincre la majorité des parlementaires, ce à quoi on ne croit pas tellement, on est d'accord, ils auront le droit de notifier qu'ils ont convaincu la majorité des parlementaires pour dire que 30% de bio c'était bien. Donc je suis d'accord, c'est mieux que rien, mais si on reste dans l'incantatoire comme ça, ben il se passera jamais rien quoi.
Bon, alors aujourd'hui on a 3,2%
de bio
dans les cantines.
C'est ça. C'est-à-dire, vous souvenez, Jean-Louis Borloo pour le Grenelle de l'environnement?
Il demandait quoi, 20?
Alors, on était en 2009. Hein.
On était en 2009.
2009. Et pour 2012, il disait, il y aura 20%. Voilà. Donc, on est en 2016. et il y a 3,2%. Donc de là à dire qu'on nous prend pour des canards sauvages, il n'y a qu'un pas que je franchis gaillardement ce samedi avec vous, Denis Chessou.
Merci à vous. Nous avons donc en ligne quelqu'un là qui fait du bio et qui résiste à tout ça et qui en plus distille vraiment la bonne parole et l'efficacité, c'est Gilles Pérol. Bonjour Gilles Pérol.
Bonjour Denis.
Alors Gilles Pérol, vous êtes maire adjoint à la mairie de Mont-Sartou, donc nous sommes dans les Alpes-Maritimes. On sait que depuis longtemps, bien sûr avec Monsieur Esquiri, votre maire, vous avez vraiment l'envie depuis très longtemps de mettre ces cantines scolaires absolument à l'honneur avec, entre autres, du bio. Et vous êtes aussi le président de l'association 1 plus bio, qui est une association nationale de promotion du bio, mais en restauration collective. Alors, en fait, vous aviez été complètement pionnier, parce que la première introduction du bio dans les cantines de Mont-Sartou, c'était en 1999. C'est juste après le scandale de la vache folle. Dites-nous maintenant, aujourd'hui, comment ça fonctionne et comment on peut être contagieux pour essayer de faire avancer les choses avec toutes les réticences, avec toutes les lois qui peuvent bloquer.
Bah, écoutez, je crois que, comme Émilie Loiseau, quand on a une volonté, un objectif, une collectivité peut avancer. Comme vous l'avez évoqué, notre maire, André Esquiri, était très sensibilisé aux enjeux santé-environnement, et on s'est dit qu'on devait servir à nos enfants une nourriture saine, qui respecte à la fois la santé et l'environnement. Et à partir de là, on a regardé ce qu'on faisait, et on a dit, il faut évoluer, il faut aller vers... Alors nous, on n'est pas à 20-30% de bio, on a tout de suite dit, il faut 100% de bio. Si c'est bon pour la santé et l'environnement, il faut aller au bout. Après, il faut l'échelonner hein, sur le développement. On est arrivé, nous, en 4 ans, et en maintenant le coût de production, puisque, en fait, les deux freins qu'évoquent les élus quand on leur parle de bio en restauration collective, c'est à la fois le surcoût et les problématiques d'approvisionnement.
Oui.
Le surcoût, on parle beaucoup de gaspillage alimentaire. La restauration collective, c'est effectivement 3 milliards de repas par an. Et en moyenne, ils jettent un tiers des repas qu'ils produisent en poids. Donc nous, on a commencé à travailler ce dossier et on a diminué de 80% le poids de nos poubelles pour générer une économie de 20 centimes par assiette qui a financé le 100% bio. Voilà quelque chose d'assez pragmatique et une solution efficace sur le financement du 100% bio.
Et alors Gilles Pérol, quand même aujourd'hui, c'est 80% de légumes servis donc dans les trois écoles qui viennent de la régie donc agricole. C'est bien que vous avez aussi des terres qui sont situées à moins de 3 km, que vous avez aussi acheté des terres, vous avez remis des cultivateurs, des maraîchers qui travaillent pour vous. Ça c'est aussi extrêmement important parce que là on est vraiment dans du circuit court.
Tout à fait. Une fois réglé le problème du coût, il faut régler le problème de l'approvisionnement local. Et moi, je parle plus d'approvisionnement local de proximité que de circuit court, parce que circuit court, ça définit le nombre d'intermédiaires. L'intermédiaire peut être à plusieurs milliers de kilomètres, c'est toujours un circuit court. Donc, je pense qu'il faut aussi parler juste pour que ça soit un objectif en termes d'action.
Donc, local.
Donc, nous, dans les locales, approvisionnement de proximité, approvisionnement local. Et dans les Alpes-Maritimes, vous savez que l'agriculture a quasi disparu. Hein. Il pousse plus de villas pour résidences secondaires que de légumes. Et quand on a voulu effectivement, nous, avoir ce bio local, puisque au début, on avait du bio d'Argentine, par exemple, là, ça ne nous convenait pas du tout, et on n'a pas trouvé de production locale. Donc, on a décidé de créer une régie municipale agricole, c'est-à-dire que sur des terres appartenant à la commune, on a embauché un agriculteur qui produit 80% des légumes. Et nous, on ne regarde pas donc le champ de carottes en face comme sur nos terrains, on a mis un agriculteur et les carottes, elles passent directement dans nos cuisines.
Alors, réduction donc, aussi, pardonnez-moi Gilles Pérol, donc à la fois aussi réduction de la viande, ça c'est important. Et vous dites aussi, alors le boulanger du village s'est converti au bio, et vous dites aussi que ce sont les enfants qui ont fait changer les pratiques alimentaires de leurs parents. Donc ça diffuse aussi en interne.
Ça diffuse, on voit bien que Émilie Loiseau parlait d'éducation à l'origine. Et effectivement, 85% des parents de Mont-Sartou ont déclaré qu'ils avaient modifié leur pratique alimentaire suite aux actions de la commune via la cantine et modifié dans ce sens plus de bio, plus de local, plus de saison. donc une alimentation plus saine et respectueuse de l'environnement.
Gilles Perrol, on a tout maintenant aujourd'hui sur la table, les données on les connaît. Vous êtes le président de l'association 1 plus bio, donc association, je le disais, pour la promotion du bio en restauration collective. Est-ce que vous devenez gentiment contagieux parce que vous êtes parti, vous étiez un ovni évidemment, mais aujourd'hui est-ce que vous êtes contagieux parce que vous êtes référencé, vous êtes une référence donc.
Oui, alors Montfartou a une belle visibilité, mais heureusement on n'est pas les seuls en France,
et
il y a plein d'autres collectivités qui avancent. Et d'ailleurs, on en récompensera une dizaine le 10 novembre au Hôtel de Ville de Paris avec les victoires des cantines rebelles. Et on va justement pour rendre visibles ces collectivités qui font bouger la restauration et montrer que c'est possible. Et même les collectivités qui ont délégué leur restauration à des sociétés industrielles, s'ils savent travailler le cahier des charges, ils peuvent faire bouger des choses. Parce que, en fait, une entreprise privée, elle ne fait que répondre au cahier des charges de la collectivité. Donc, il faut que les élus reprennent la main.
Ça se passe toujours au niveau du cahier des charges. Voilà.
Au moins dans le cahier des charges, pour mettre du bio, mais du local, pas n'importe quel bio, je suis entièrement d'accord.
Merci beaucoup, Gilles Perrol. Peut-être réaction d'Émilie Loiseau, je sais pas par rapport à ça.
Je trouve ça formidable et très intéressant. Merci beaucoup pour cette intervention. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Au-delà de ça, je voulais dire aussi que je crois qu'il y a aussi l'éducation au goût, en fait. Et je suis en train de lire en ce moment passionnément le livre de Céline Alvarez sur l'éducation. Et elle parle de ça. C'est-à-dire que ça fait partie des choses qu'on doit transmettre aux enfants. La nature, le toucher, l'organique, le goût, ça fait partie des choses qui câblent le cerveau, en fait. Elle qui a travaillé avec des neurologues, c'est extrêmement précis. C'est pas du vent, c'est pas juste des boniments de poètes bobos ou babos ou je ne sais quoi, quoi.
C'est aussi pour éviter d'avoir des enfants hors sol, quand même. Hein.
Mais le goût est quelque chose il devrait y avoir un temps d'apprentissage lié à ça. Si on leur donne à la cantine des choses en surquantité et qui sont vraiment quasiment une fois sur deux immangeables, on banalise et puis surtout c'est tellement c'est insipide, c'est-à-dire que souvent ces choses-là elles n'ont justement aucun goût, les légumes non, les tomates n'ont pas le goût de tomate, enfin c'est.
Est-ce que vous avez le titre du bouquin? Est-ce que vous venez de la citer, c'est Céline Alvarez? On va le trouver.
Ouais, parce que je l'ai pas exactement vidéo, je le suis en train de le lire tous les jours.
Non, parce que je connais pas ce bouquin, donc
vous savez, c'est celle qui a fait cette expérimentation pendant 3 ans dans une école primaire et qui a utilisé notamment la méthode Montessori. Et en fait, elle s'est rendue compte que les gamins de 4 ans, 4 ans et demi, commençaient déjà à savoir lire et qu'ils se développaient beaucoup plus rapidement. Et pour la remercier d'avoir réussi aussi bien, l'éducation nationale a dit qu'elle ne reconduisait pas en fait son expérimentation. Donc on est quand même vraiment dans un monde de Shadok complet en France aujourd'hui. Ouais.
Formidable. Avant de passer donc au théâtre, on va marier le théâtre, la récupération, le recyclage et la culture. Eh bien voici cette chanson. It's knowing that your door is always open and you're past free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. It's knowing I'm not shackled by forgotten words or bones, some ink stains that have dried up on some night. That keeps you on a back road by the rivers of my memory, keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on the columns now that binds me, or something that somebody said cause I thought we'd fit together walking. It's knowing that your world will not be cursing or forgiving when I walk along some railroad track and find that you're waving from the back roads by the rivers of my memory, every smile and every gentle on my mind. And though the wheat fields and the clotheslines and the junkyards and the highways come between us, some other woman crying to her mother cause she turned and I was gone.
Running silence, tears of joy might stain my face, and the summer sun might burn me till I'm blind. I'll be not to where I cannot see you, walking on the back roads by the river's flow and along my mind. I'd dip my cup of soup back from a gurgling, crackling cardinal in some train yard. My beard a roughened coal pile and a dirty head pulled low across my face. Through cupped hands and around tin can, I pretend to hold you to my breast and find that you're waving from the back roads by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind. That you're waving from the back roads by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle. You're waving from the back roads and by the rivers of my memory, for hours you're just in a hole in my mind.
Qu'est-ce que c'est joli, ça, choisi par Muriel Pérez. Merci Muriel. Sizzik Steve, et ouais, sur France Inter. Non, mais je le découvrais là aussi, comme vous, parce que parfois, voilà, on découvre les disques comme ça. Et c'est un régal. Toujours avec Émilie Loiseau, sur France Inter, CO2 Mon Amour, avec ce thème des cantines. On a retrouvé, bien évidemment, on a retrouvé donc le titre du bouquin de Céline Pérez.
Les lois naturelles de l'enfant.
Les lois naturelles de l'enfant.
De voilà. Céline Alvarez.
Ouais. Et donc, elle met aussi ces éléments sur le net.
Oui, c'est-à-dire que bon, quand elle n'a pas pu reconduire sa classe, elle s'est rendue compte qu'elle n'allait pas obtenir des choses nouvelles d'en haut et qu'il fallait plutôt qu'elle allait devoir s'émanciper et que c'était mieux finalement. Et donc elle prend tout ce qu'elle a filmé avec les enfants qu'elle a fait pendant 3 ans dans cette cité de Gennevilliers, dans cette ZEP, elle est en train en ce moment de dérocher pour le mettre en ligne pour que tout le monde, et puis elle fait des conférences et puis ce livre, pour que tout le monde, parents comme éducateurs, comme enseignants, puisse tirer profit de ce qu'elle a découvert. Et la bonne nouvelle, c'est que ce livre est en train de devenir un best-seller. Quoi. Donc, je crois qu'il y a une soif de ça.
Isabelle Saporta, donc, je le rappelle, journaliste spécialisée, entre autres, dans le domaine agricole. Bon, vous étiez une fois de plus assez admirative par rapport à ces maires. Et il y en a plein.
Ouais.
Enfin, nous, on aime bien les choses qui bougent aussi. Hein,
mais c'est des guerriers. Hein.
C'est des guerriers.
Quand ils disent cantine rebelle, ce sont des guerriers. Parce qu'aujourd'hui, les marchés publics, tout est fait pour que vous ne puissiez pas acheter local. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, c'est pour ça que la loi aurait été intéressante. Aujourd'hui, quand vous mettez une préférence géographique sur votre marché public, vous êtes hors la loi, le maire est hors la loi. Donc pour acheter local, il faut qu'il contourne la loi. Et donc Stéphane Le Foll, notre cher ministre de l'Agriculture, il a trouvé une idée géniale, c'est-à-dire que plutôt que d'appuyer les lois, en fait, il a fait une espèce de guide pratique qui fait 90 pages, qui est complètement indigeste, pour expliquer aux maires qui voudraient acheter local comment contourner la loi. Donc on en est là en France aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne fait pas avancer les choses.
Il s'est rendu compte qu'on n'y arriverait pas, donc il a fait pondre un guide pratique,
comment contourner la loi, acheter local et manger bien, quoi, si vous voulez, dans
Super.
Les cantines. Non mais c'est ça, mais vous savez, plus je travaille sur ces sujets, plus je me dis, vous savez, je vous dis, c'est les shadows, c'est vraiment, il y a un moment, je me dis, on va s'arrêter de pomper, on va avoir juste une solution un petit peu facile, intelligente, mais facile, intelligente, c'est
bon, alors ça veut dire quoi, vous, citoyens, hein, vous qui nous écoutez
de
France Inter, les uns les autres.
Il faut qu'on continue à se battre, à soutenir justement Brigitte Allain, Joël Labbé, ces gens qui ces députés.
Non mais peut-être aussi d'aller voir, je sais pas, son directeur sur les cantines.
Il y a une pétition qui a été lancée aussi sur comment manger bio et local. Et il faut que nous aussi on se bouge et qu'on fasse pression.
C'est sûr que si les parents d'élèves collectivement et majoritairement s'élevaient et contre les repas de cantine tels qu'ils sont aujourd'hui, ça aurait du poids. Pour l'instant, la prise de conscience n'est pas encore...
Alors, nous tournons la page et je vous propose un autre sujet sous forme de reportage. Nous allons partir dans un très beau lieu, dans une Bastille du XIIIe siècle. Nous sommes dans le Gers, nous sommes où cela ? Vous allez voir. Oh, le beau théâtre ! Où sommes-nous, Hélène Maton ?
Au Nouveau Monde.
C'est bien, ça, Nouveau
c'est
Monde.
C'est bien, hein, le Nouveau
ah,
Monde.
Ah oui, ça part bien.
Ça y est, on y est.
On y est. On est au bord des Douves, en fait, de Cologne, ici dans ce département du Gers. Et puis, Il y a quand même une originalité. Le Nouveau Monde, il se fait à base de quoi, là, ici?
Alors, à base de plein de choses, à base de palettes, à base de maïs, à base de ruches, à base de papier peint, d'aluminium, de porte-fenêtres.
Alors, en fait, c'est un théâtre qui est un théâtre éphémère, mais qui a été fabriqué avec des matériaux donc recyclés.
Voilà, c'est ça, des matériaux de récupération.
De récup,
on a tout récupéré auprès de toutes sortes de personnes, des associations, des particuliers, voilà. On a récupéré à droite
ça
à gauche.
Vous avez fait un appel au peuple et puis ça,
voilà,
ça
a donné. Voilà, on a fait un appel et puis sinon sur les choses dont on avait besoin. Donc la palette, évidemment, c'était la base.
Ah oui,
ça... Parce qu'on a fait la palette de piscine, par exemple, elle a servi à faire la scène. Voilà, donc on entend le bruit de la scène. Si on avait voulu faire une scène en aluminium, ça aurait été c'est cher l'aluminium, donc on n'aurait sûrement pas pu. Mais là, voilà, on a une magnifique scène en aluminium.
Nous sommes donc à Cologne. Nous sommes à Cologne. Alors vous savez, comme Florence, Grenade, Valence, Barcelone en France, et ben ces noms donc évoquent les grandes capitales européennes qui étaient florissantes de l'époque. Et puis en donnant de tels noms, on affirmait véritablement la vocation commerciale de ces nouvelles villes, donc de ces bastides. C'est très très mignon, c'est très joli. Alors vous avez aussi un restaurant Colibri, je tiens à le dire, qui est très très bien. Ah oui, c'est des femmes qui tiennent ça, c'est absolument génial. Il est sur la place là où vous avez cette halle qui est très belle avec une mesure à grain. Ce restaurant Colibri. Et donc nous avons entendu Hélène Maton. Alors qui est Hélène Maton? C'est une comédienne et qui est aussi, elle aussi pareil, même âge que vous, Émilie Loiseau, donc une quarantaine d'années. Elle est géniale. Elle est comédienne d'abord et elle s'est dit mais comment on peut faire? Et donc elle a créé, vous allez voir, ce théâtre éphémère. Et après, on pourra en parler un petit peu. Elle va essayer d'essaimer aussi, c'est ce qu'elle est en train de faire, pour que ça puisse continuer avec ce théâtre du Nouveau Monde et cette langue écarlate.
Ça fait un moment que je me pose des questions sur les lieux culturels et les théâtres en particulier, parce que je trouve souvent des grands bâtiments assez impressionnants, où on n'ose pas rentrer d'ailleurs. Souvent on se dit, oh, est-ce que je suis légitime d'y rentrer?
J'ai pas les codes, etc.
J'ai pas les codes, je vais pas comprendre. Et puis, y a aussi que c'est des bâtiments qui coûtent très cher. Il faut les chauffer, il faut les éclairer, il faut faire de la maintenance, il faut les sécuriser.
Je veux dire que 70 ou 80% après des frais, c'est des frais fixes, quoi. C'est un peu ça.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le théâtre en ordre de marche, c'est-à-dire c'est pour faire tourner le bâtiment. Avant même qu'on ait payé quiconque, avant même qu'on ait créé quelque chose, surtout, en fait, on doit faire fonctionner le bâtiment.
Avec de l'éphémère, là, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir, ça.
Non,
ces frais-là,
ça n'a rien à voir. Donc l'idée, c'était de dire l'argent qu'on a, ce qui pourrait servir pour payer les gens. C'est-à-dire que pour qu'ils payent leur loyer et qu'ils nourrissent leurs enfants. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut revenir à des fondamentaux comme ceux-là.
Alors là, je vois des ruches aussi. C'est très intéressant, ça.
Voilà, alors ça, c'est Alexandre qui est apiculteur à Cologne. C'est pareil, un jour, il est arrivé. Il nous a dit, mais je vais vous donner des ruches. Il nous a donné une vingtaine de ruches. Il nous a donné des rehausses. Et donc, avec les rehausses, qui sont donc les cadres qui permettent de rehausser la ruche, et on a fait une bibliothèque. Et donc ça, c'est une bibliothèque libre, c'est-à-dire qu'on y a mis des livres. Il y a des gens du village qui sont venus y mettre des livres. Et puis, chacun passe, en prend, en met, voilà. Vous pouvez rentrer, hein?
C'est un théâtre.
C'est un théâtre, c'est ouvert, hein?
N'ayez pas peur.
Vous pouvez vous balader. Vous pouvez prendre des livres si vous voulez, vous asseoir.
C'est la fête des enfants pour dimanche.
Non, c'est pas la fête
des enfants.
Oui, c'est
nous,
pas
on
mal
est
lieu.
Des grands enfants en fait.
J'ai
voilà.
Bien grandi, c'est bien.
Ouais, non, on est resté tout petit. Voilà. Non, c'est un théâtre en matériaux de récupération.
Ouais,
voilà.
C'est original.
C'est original, ouais, hein. Oui, c'est tout à fait le terme original. C'est-à-dire que c'est une première. Donc on a fait ça avec les habitants de Cologne et des environs depuis le mois de mai. On a fait des chantiers participatifs. On a construit le théâtre avec des matériaux qu'on nous a donnés. On programme des spectacles. Dimanche, il y a la journée de l'écologie populaire. Il y a le film Demain qui est projeté là. Dimanche soir, il y a un spectacle à 20h30. Gros, c'est gratuit. Ouais, c'est un tarif tout à fait...
Oui, ça doit être possible pour le tarif.
Les vélos, c'est fou quand même.
Ah oui, tous les vélos agencés ça fait une petite œuvre d'art là qui arrive. Voilà. Puis là, vous voyez, l'arche.
Ah ça, c'est ce qui m'a attiré, moi. L'arche, je trouvais ça très original.
Qui est fabriqué donc avec
des cajots.
Comment, Hélène, la population donc a réagi et comment ça a fonctionné? Ils se sont emparés quand même, en partie, on va dire, ce projet?
En partie. Après, on va dire qu'il y a un volant d'une dizaine de personnes de Cologne qui ont participé. C'est pas énorme sur 50, quand même. Après, il y a toute une partie de la population qui a des a priori. Voilà. Donc ils sont assez impressionnés parce que le lieu existe. Alors là, on est la journée, mais le soir, il est tout éclairé, donc c'est vrai qu'il est très beau. Du coup, c'est impressionnant parce que d'un coup, c'est beau. Voilà. Il y a de la magie qui va avec ça et on se dit, ah, d'accord, donc c'est pas juste un gros vide-grenier dégueulasse. Voilà.
Et vous êtes arrivé en fait à faire des choses plutôt pas mal. Bon, évidemment qu'il y a des cagettes, il y a des palettes, il y a tout. Mais voilà, tout est coloré. Vous avez récupéré aussi un tableau merveilleux là avec plein de fringues qui sont à tonalité violette, rouge et rose. Et on imagine bien le tri qu'il y a dû y avoir pour la personne qui a travaillé là-dessus pour classer tout ça et après faire un tableau avec donc tous ces textiles.
C'est un peu comme quand on rentre à la maison, qu'on n'a pas fait les courses et qu'il faut faire à manger. Donc on doit faire quelque chose avec ce qu'il y a dans le frigo. Par exemple là, pour ce tableau dont vous parliez, ça c'est Gisèle qui l'a fait, 200 kilos d'habits donnés par Emmaüs, qu'est-ce qu'on fait avec 200 kilos d'habits? Et Gisèle, en discutant avec Gisèle, on s'est dit on va faire une tapisserie. Mais voilà, donc la tapisserie, elle a décidé d'en faire une verte, une bleue, une rose. Mais pour ça, ça veut dire du tri, donc ça veut dire trier 200 kilos d'habits. Donc voilà, on peut imaginer à peu près 25 sacs là, avec un tas vert, un tas bleu, un tas un peu bleu, un peu vert, un tas noir, un tas blanc.
Donc c'est du temps.
Donc c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de gens, de beaucoup de mains. Et c'est aussi un temps de gens qui sont fédérés par un projet collectif, dans lequel la question de l'argent se pose pas, c'est-à-dire qu'on est dans la question de l'échange. On crée ensemble un lieu qui va bénéficier à tous.
Hélène, il y a aussi une cohérence avec les spectacles qui sont donc présentés. Il y a aussi une tonalité un peu environnementaliste.
Oui, alors après, un théâtre, qu'est-ce que c'est qu'un théâtre, hein? Pourquoi on construit un théâtre? Pourquoi on ne construit pas... voilà, j'ai pas décidé de construire un stade de foot ou voilà. À quoi ça sert un théâtre? Un théâtre, ça sert à créer un endroit où on peut se parler les uns les autres, on peut s'écouter les uns les autres. Ça sert d'abord à ça. Et puis ça sert à raconter des histoires. Donc après, on peut raconter des tas d'histoires dans cet endroit-là. Alors, comme c'est un théâtre de verdure, bon, c'est vrai que c'est pas un théâtre dans lequel on peut tout jouer parce que d'abord, il y a le climat. Hein, moi, ça fait 15 jours que j'ai le nez sur météo ciel tout le temps parce qu'on a peur de la pluie. Ah, voilà un petit garçon. Ah,
c'est bien.
Bonjour.
Salut, jeune homme. Ah, il va prendre possession de lieu tout de suite, lui.
T'as vu les petits lapins?
Les petits lapins.
Regarde, ils sont là, il y a deux tours, regarde.
Hélène, comment s'approprie, on va dire concrètement, l'environnement aussi? Est-ce qu'on a envie d'en parler et de créer quelque chose?
Un projet comme le Nouveau Monde, c'est un outil en fait. C'est comme une boîte à outils avec lesquels on peut faire plein de choses, notamment des choses avec les enfants. Donc là, par exemple, il y a un projet avec l'école primaire de Cologne. Ils sont venus visiter le lieu à différentes étapes. Et là, ils travaillent sur un petit spectacle qu'ils vont venir présenter le 8 autour de la question du recyclage. Donc ça, c'est une entrée, par exemple, pédagogique. Il y en a une autre qui était avec la maison familiale et rurale, qui est juste à côté, qui accueille des enfants plus grands de 16 à 22 ans et qui sont venus participer au chantier.
Et alors dites-moi là quand même, je vois ces merveilleux petits filets, rouges et blancs.
Alors qu'est-ce que c'est à votre avis?
C'est pas du filet pour les oiseaux, pour les empêcher d'aller picorer. C'est pas du filet de pêche non plus. Alors c'est un peu élastique, c'est un peu souple.
C'est un filet pour emballer du saucisson.
Wow, voilà. Ah oui, d'accord.
Ça fait partie des choses qu'on nous a données. Du filet à saucisson, beaucoup de longueur.
Alors, ça sert à quoi le filet à saucisson?
Alors ici, le filet à saucisson, il a servi pour décorer. Hein, pour ouais. Là, il décore toute l'entrée hein, où il y a le nom, le nouveau monde. Et puis, il a servi aussi sur le gradin pour fixer tout ce qui était la paille pour les assises sur le gradin.
Et d'accord, donc tout est bon dans le cochon, mais aussi tout est bon dans le filet à saucisson.
Voilà, hein, tout est bon dans le filet à saucisson, exactement. C'est une chose complètement unique. Un gradin en filet à saucisson avec de la mousse et de la paille. Voilà, c'est tout à fait unique et on n'a pas du tout anticipé ce projet. Il est venu avec le matériau.
Alors, la question qu'on peut se poser, surtout dans notre magazine, c'est de se dire, est-ce que tout ceci, alors c'est le matériau de récupération, mais est-ce que ça peut se recycler? Est-ce que ça peut se resservir, quoi?
Alors ça va resservir, donc ça va être démonté, ce qui peut être démonté, hein, parce qu'il y a des choses qui sont indémontables. On va le faire, on va dire que 70% des matériaux vont être recyclés, c'est-à-dire que soit ils vont être rendus, les vélos vont être rendus à leur propriétaire, les ruches vont être rendues à leur propriétaire,
les cagettes, c'est des cagettes. L'aluminium, on va le garder. Mais disons que déjà, il y a beaucoup de caractéristiques conjuguées qui sont assez complexes à mettre en œuvre. Donc, on ne peut pas nous demander de faire du 100% recyclage.
Hélène, présentez-nous votre amie.
Aurélie Bégou.
Voilà. Et vous travaillez où, Aurélie ?
Au Pays Porte de Gascogne. Oh. Je coordonne le projet culturel du pays. Donc, c'est 160 communes, 70 000 habitants.
Et lorsqu'on tombe sur un projet comme celui-là, qui maintenant est une réalité, on se dit que quand même c'est plutôt pas mal, parce que les gens se sont mis tous ensemble pour réaliser ça. Et lorsque l'on est quand même dans des zones rurales où c'est pas simple de faire passer de la culture, c'est un levier comme un autre.
On est vraiment sur l'histoire de la découverte aussi et s'adresser à des publics qui pourraient penser que la culture n'est pas pour eux. Donc là, c'est vraiment le leitmotiv et c'est ce qu'on a trouvé donc avec La Langue Écarlate, c'est qu'on est vraiment sur ce propos à la fois dans l'air du temps avec un regard sur la société et comment on entraîne les habitants à regarder cette société et à faire société aussi. Les habitants des zones rurales aujourd'hui, elles sont finalement les mêmes intellectuellement que celles des milieux urbains. Il y a Internet, ils se déplacent. Un jeune aujourd'hui, il rêve aux mêmes choses, quoi. Donc il y a plus clivage rural-urbain. Finalement, ce clivage, quelquefois, j'ai l'impression qu'il existe surtout dans le regard des urbains. Mais finalement, moi, je prends les ruraux pour des habitants normaux, comme des urbains. Donc ils ont droit aux mêmes choses et à la même qualité.
Hélène, le nouveau monde, en fait, pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que c'est un projet ambitieux, utopique, et que voilà, nous, on fait des choses avec Aurélie dans le monde rural, on est dans le Gers.
Et c'est pas du tout au rabais.
Non, c'est pas au rabais, que c'est vrai qu'on a des grandes ambitions, qu'on pense que c'est un projet avant-gardiste, cohérent, humaniste, écologiste, et que toutes ces qualités réunies, c'est assez rare dans un seul et même projet, qu'il est porté avec beaucoup de passion et de foi par tous les gens qui y ont participé et qui participent encore, et que le nouveau monde, oui, parce que la question, c'est effectivement de fabriquer quelque chose de nouveau, et que cet agencement-là, il est nouveau.
Hélène Maton, donc comédienne et instigatrice, qui a eu cette idée-là de ce théâtre du Nouveau Monde. Donc là, c'était à Cologne. Alors ce théâtre a été démonté donc depuis, normal. Puis il va repartir ailleurs. Vous avez tous les éléments sur le site de CO2 Mon Amour. J'avais des photos, puis elles sont pour passer. Alors vous essayez de les mettre lundi ou mardi, les jolies photos donc sur le site. C'est beaucoup de femmes. Il y avait 50 bénévoles dedans et beaucoup de femmes dans cette affaire qui comprennent bien ces enjeux. Et là, en fait, vous écoutiez ça avec pas mal d'intérêt, Émilie Loiseau, parce que ça vous rappelait aussi, vous, ce spectacle que vous aviez donc créé. On va dire c'était un slow show, en quelque sorte.
Oui, mon slow tour.
Au slow tour,
en Cévennes, en Ardèche. Oui. Ensuite, c'est après que on a fait ça sur 5 jours et que j'ai fait ça avec plein d'associations locales. Mm-hmm. Là, il y a un travail sur la longueur qui est incroyable. Et déjà, avant tout, je voudrais dire, pour moi, la modernité, elle est là, en fait. C'est vraiment ça, être moderne aujourd'hui. C'est pas autre chose. Ça se situe pas ailleurs. Et je trouve ça,
formidable. Quand vous dites ça se situe pas ailleurs, donc ça se situe où? Dites-nous, on a besoin
Ça se situe dans le fait que, clairement, on est en train de courir à notre perte, que les ressources ne sont pas inépuisables, que d'ici la fin de ce siècle, on verra commencer l'extinction de l'humanité, toutes ces choses-là qui font qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie d'entendre. Donc, si à un moment donné, on veut veiller aux générations futures et construire des choses qui sont pérennes, qui sont lucides par rapport à là où on en est sur cette planète, d'un point de vue scientifique, il faut commencer à réfléchir comme ça. Il faut trouver d'autres énergies, il faut recycler, il faut aller vers des choses locales, il faut penser autrement, en fait. Mais c'est passionnant. En fait, je crois que les gens ont l'impression qu'on leur raconte des choses rébarbatives et qui leur font peur. C'est là que le film de Cyril Dion est génial. C'est qu'il faut être dans la construction. En fait, c'est une aventure extraordinaire. Il s'agit d'inventer des choses pour pouvoir vivre sur cette planète.
Avoir
que nos enfants
un récit
puissent
du futur positif.
Quoi. Exactement. Et être dans la fabrication de choses nouvelles et d'inventer des choses nouvelles. Moi, je trouve que c'est passionnant. Ça me passionne en ce moment, justement, parce que c'est pas morbide.
Et c'est peut-être aussi pour ça que sur notre Notre-Dame-des-Landes, vous n'étiez pas exactement d'accord, c'est ce que j'ai compris. Hein.
Donc... Bah, disons qu'au lendemain de la COP21, je trouve que c'était pas exactement la chose la plus logique et la moins contradictoire.
Mais si.
Je trouve que quelque part, bon, je vois la logique, quelque part, c'est servir le portefeuille de Vinci, et ça, je peux comprendre
pas
qu'aujourd'hui,
que.
Ce, et pas que, et que, d'installer, pas voilà, que. Mais quand même, on a qu'à la COP21, puis on fait ça derrière, c'est fou.
Alors, vous avez des jeunes qui sont formidables, qui organisent un salon, ils ont laissé un message au 01 56 40 40 35, et ça aussi, ça nous donne la pêche, c'est à Montpellier.
Bonjour Denis, c'est Guillaume de l'Université de Montpellier. Je te téléphone pour te parler d'un événement qui a lieu à Montpellier, le Salon de l'écologie. C'est en fait le rendez-vous national et annuel de la filière professionnelle de l'écologie. Et c'est organisé par des étudiants qui sont passionnés de nature et de biodiversité. Ce salon, il a lieu du 3 au 5 novembre. En fait, il y a deux journées très importantes. Une première journée Écolo Job, qui est le forum des métiers et des formations de la filière professionnelle de l'écologie pour valoriser la diversité de ces métiers. Et la deuxième, le 5 novembre, qui a lieu aux eaux du Lunaret, c'est Festiversité, des conférences, des débats, des animations artistiques pour tous les publics sensibles et amoureux de la nature. La thématique, c'est la biodiversité, l'art de vivre ensemble. Alors on espère vous y retrouver nombreux. Aux eaux du Lunaret à Montpellier et sur le campus Triolet de la Faculté des Sciences. À très bientôt. Au revoir.
Mais merci à vous. Et je crois aussi que Camille Blanès, votre assistante, a dû mettre le site parce que je trouve ça très 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 bien. Là aussi, c'est tout à fait stimulant, cher Émilie Loiseau. Alors bon, cet album Mona, mais alors aussi à la Cigale le 10 novembre à Paris.
Ouais, hein, ouais, c'est la fête. On est
ah ouais,
hyper heureux. On est en pleine tournée. On a relifté notre concert, donc on a des nouvelles choses.
Oui, parce que vous jouez pour la peine.
Oh, je vous remercie. Et on a retravaillé, on a un concert qu'on adore, on a retravaillé la scénographie, donc il y a plein de choses nouvelles, plein de surprises, et ça va être une fête.
C'est pas mal, comment en plus la Cigale, ça vous correspond assez bien,
n'est-ce
hein, vous
pas.
Qui êtes dans l'Ardèche, là, c'est... Donc la Cigale, vous notez bien, donc ça c'est le 10 novembre.
Le 10 novembre.
Et puis alors, avec une facilité, c'est pitoyable ce que je vais dire, donc vous appelez Émilie Loiseau, donc j'en profite pour signaler que le Festival International du Film Ornithologique, donc de l'oiseau, a lieu, ben oui, bien sûr. Mais il y a que là, je peux le faire, hein,
si vous voulez.
Voilà. Non, mais ça tombe là.
Mais c'est génial, j'aime beaucoup.
La semaine prochaine, ça ne marchera pas. Donc c'est à Minigoutte, hein. Voilà, c'est un grand classique. C'est à Minigoutte. Si vous aimez les oiseaux, les ornithos, etc., et aussi vivre ensemble avec une passion qu'est celle de la nature, surtout ne vous gênez pas. Merci à Vincent Godard, à Julien, Michel. Merci à Camille Blanès, à Xavier Pessugia qui réalisait cette émission, qui a colorié merveilleusement ce théâtre du Nouveau Monde. Muriel Pérez a choisi les disques. Anne Gouzon nourrit les sites. Et la semaine prochaine, eh ben je sais pas. Si, je sais, peut-être, on va parler un peu de granulés bois, je pense. A priori, ça doit être ça. 7h55, Bougrain du Bourg chez Patricia Martin, demain matin, dimanche. Nathalie Fontrelle, 7h20, c'est en semaine. Et puis, bah, la tuile du Mont Petit Loup, 19h54. Après les petits bateaux, ce sera demain. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et puis, je vous souhaite le meilleur, cher Émilie Loiseau.
Merci
à vous. Merci aussi à vous, Isabelle Saporta.
Merci.
Et puis, vous reviendrez, hein.
Avec
vous aussi.
Grand plaisir.
Allez, vous reviendrez, c'est parfait. La Cigale, on s'en souvient, mais on le redit quand même. C'est le 10 novembre. C'est donc à Paris, si vous aimez, et vous aimerez, Émilie Loiseau.